Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et nous sommes le 18 octobre. Notre rubrique rétrospective aujourd'hui, ça s'est passé un 18 octobre, la naissance de la BBC. Avec Ileana Guyochon.
L'honneur, le bon sens. L'intérêt supérieur de la patrie.
Reconnaissez-vous cette voix ? Il s'agit de l'appel historique lancé par le général de Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940. Un moment clé de l'histoire qui n'aurait jamais retenti sans le soutien d'une radio britannique, la BBC. La British Broadcasting Corporation, plus connue sous le nom de BBC, a joué un rôle crucial ce jour-là et bien d'autres. Aucun autre média n'a traversé le XXe siècle avec autant d'influence, de diversité et de réinvention. Ça s'est passé un 18 octobre 1922, la création de la BBC par un groupe d'entrepreneurs. À sa tête, John Reith, un ingénieur écossais de 33 ans, apporte sa vision révolutionnaire. Il instaure une redevance de licence garantissant l'indépendance financière de la BBC, loin des gouvernements et des publicités. En moins d'un an, la BBC diffusait déjà des pièces de théâtre, concerts, conférences et programmes de variété, tandis que les informations n'étaient diffusées qu'en soirée pour ne pas concurrencer les journaux. Reith voulait, donc, je cite, « apporter le meilleur de tout au plus grand nombre de foyers ». Et il avait raison. Écoutez, la BBC devint rapidement un véritable phénomène social et culturel. En 1924, les signaux horaires de Big Ben et les fameux pips de Greenwich entraient dans le quotidien des Britanniques. Même le roi George V s'adressait à son peuple à la radio pour la première fois depuis l'exposition de l'Empire britannique à Wembley.
I must speak to my people everywhere.
Au début, les auditeurs utilisaient de primitifs postes à cristal avec un petit fil que l'on déplaçait pour capter le signal. Avec l'ouverture du premier émetteur longue portée à Daventry en 1925, presque toute la Grande-Bretagne pouvait écouter la BBC et effectivement, en 1938, 98% de la population suivait ses programmes. Derrière les studios, l'innovation battait son plein, les inventions techniques, les premières expérimentations télévisuelles faisaient de la BBC, plus qu'un simple diffuseur, une véritable usine d'innovation en communication. La décennie 1930 changea tout. La BBC savait qu'une guerre pouvait bouleverser son fonctionnement, mais cela ne l'empêcha pas de grandir. En 1932, le Broadcasting House ouvrait ses portes, un véritable symbole de la puissance croissante de la radio. Et 4 ans plus tard, en 1936, la BBC devenait le premier diffuseur au monde à lancer un service télévisé régulier. Puis vint la guerre. La BBC change alors radicalement de visage, elle invente des nouvelles façons de raconter. Des journalistes en direct depuis le front, des voix venues du cœur du conflit, elle devient l'une des principales sources d'information et de propagande du monde libre. Sa taille double en quelques années et l'opinion publique à son égard se transforme complètement. Mais surtout, elle joue un rôle crucial. Elle informe, elle soutient le moral des Britanniques et elle transmet des messages de résistance. Parmi eux, celui donc historique du général de Gaulle, ou même celui de Churchill qui pourtant n'appréciait pas la BBC, mais qui en avait compris le pouvoir. C'est aussi à cette époque que le 6 juin 1944, la BBC annonce officiellement le débarquement de Normandie. Cependant, la radio allemande annonce l'invasion quelques minutes avant la BBC et certains auditeurs trouvent la couverture sur le terrain trop dure, trop bouleversante pour les familles des soldats engagés. Si auparavant la BBC avait été critiquée pour ses programmes jugés trop fades et pour son manque d'impartialité, la population et les soldats ont vu en elle une véritable bouée d'information et d'espoir. Après-guerre, la BBC franchit de nouvelles étapes. Un service télévisé d'information, la diffusion des premiers Jeux Olympiques d'après-guerre, la création de la télévision pour enfants et l'invention des premiers enregistrements de télévision en direct tout en renforçant sa présence internationale. Nous sommes en 1953 et pour la première fois, un couronnement est retransmis en direct à la télévision et c'est celui d'Elisabeth II.
The words echo out of the history of the land. We have resolved, by the favor and blessing of Almighty God, to celebrate the solemnity of our royal coronation upon Tuesday, the 2nd day of June, in the year of grace 1953.
The coronation of our royal man.
Plus de 20 millions de téléspectateurs à travers l'Europe suivent l'événement. Et la BBC continua de marquer les esprits dans les décennies suivantes. En juillet 1981, le mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer fut retransmis dans le monde entier avec une audience estimée à 750 millions de téléspectateurs. Ce fut le programme le plus regardé et jamais diffusé. Donc la cérémonie offrit des moments emblématiques et mémorables, marquant toute une génération et constituant l'une des plus grandes retransmissions extérieures de la BBC des années 80. Une décennie plus tard, la BBC continue d'évoluer, d'innover et surtout de surprendre. En 1997, elle présente pour la première fois quatre drôles de personnages hauts en couleur, les Teletubbies qui deviennent immédiatement un phénomène mondial. Et c'est en 2022 que la BBC a fêté ses 100 ans. Aujourd'hui, la BBC demeure impartiale et indépendante, créant chaque jour des programmes de classe mondiale qui informent, éduquent et divertissent des millions de personnes au Royaume-Uni et dans le monde. De simple radio, elle est devenue numérique, réunissant BBC News, sport, météo et bien plus encore. Et c'est grâce au BBC World Service qu'elle diffuse désormais en plus de 40 langues à la télévision, à la radio et en ligne. Née modestement à Londres, la BBC est aujourd'hui une institution mondiale qui a façonné la manière dont la Grande-Bretagne écoute, apprend et vit et qui continue d'influencer les médias jusqu'à aujourd'hui.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Les inconnus en question. Ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam. Mais j'entends leurs pas, lassés des belles paroles, ils frissonnent. Je n'ai pas connu en personne les inconnus.
Et c'était Bertrand Belin, l'inconnu en personne sur Radio SBS en ce samedi. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Europa Voice numéro 169, je suis Christophe Mallet, comme à l'accoutumée, je suis avec mon grand ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, comment ça va?
Ça va impeccable depuis la semaine dernière et il s'est passé tellement de choses depuis la semaine dernière qu'on va repartir sur le même sujet, bis repetita, le Cornu 2 existe, le Cornu 2 a survécu au discours de politique générale et je prends un air tellement élancé que c'était pas forcément gagné au départ. Hein.
Non, c'était pas du tout gagné hein, parce que encore une fois, souvent quand même les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Il a abordé son discours de politique générale, Sébastien Lecornu, avec une optique qui est complètement différente hein, puisque la première fois qu'il a été nommé Premier ministre, le gouvernement Lecornu 1, pour nos éditeurs d'Europa Voice et d'SPS, c'était en fait une totale, j'allais dire, carte blanche, c'est-à-dire l'échec de son prédécesseur et puis l'arrivée au pouvoir d'un jeune fidèle de la Macronie pour conduire la France dans les deux ans de mandat qui restent. Alors que là, évidemment, Sébastien Lecornu avait d'abord démissionné, refusé de revenir, et puis avait dit bah, finalement, je vais prendre ma responsabilité d'avoir, j'allais dire, cette ambition de remettre les choses sur rail, et notamment le vote du budget qui doit advenir avant le 31 décembre 2025.
Alors c'était la clé, hein. Ce budget, c'est toujours la clé, parce qu'il est loin d'être d'être voté. C'est la clé puisque c'est vrai qu'il y a eu ce discours de politique générale qui donne l'ordre, si vous voulez, de ce que la politique du gouvernement sera sur les prochaines années si le Parlement donne la confiance à, donc notamment au budget. Malgré le fait qu'il y ait tout le discours, il y avait deux mots qui étaient très attendus par quelqu'un, enfin par un groupe en tout cas, notamment les socialistes, c'était la suspension de la réforme des retraites. C'est le deux groupes de mots. Sans ça, le gouvernement n'existerait pas aujourd'hui. On est d'accord ou pas?
On est entièrement d'accord, Christophe, et effectivement, c'est ce qu'a fait Sébastien Lecornu. Il a proposé de suspendre cette réforme des retraites pendant son discours de politique générale qui a eu lieu cette semaine. Et je vais le citer, il a dit « Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'au janvier 2028. » Alors, c'est à la fois un signal très encourageant, j'allais dire, pour avoir la confiance toute relative, mais de son opposition au Parlement. Après, il y a aussi cette question que Monsieur Tout-le-Monde se pose, c'est une question simplement de suspendre jusqu'aux prochaines élections présidentielles, mais que ça doit revenir sur la table comme ça l'est, en fait, à chaque fois. Est-ce bien utile? Mais en tout cas, c'est une chose qu'il n'avait pas le choix de faire. Il devait la suspendre parce que sinon, véritablement, c'était la condition, j'allais dire, sine qua non pour que d'autres groupes et l'opposition au Parlement puisse accepter d'être dirigé par Lecornu 2.
Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que si on se place de l'autre côté de l'échiquier, c'est-à-dire à droite, les LR, eux ne voulaient pas cette suspension, en tout cas, eux ne voulaient surtout pas une abrogation de la loi sur les retraites. Donc, on sent bien que la ligne était quand même ultra fine pour Sébastien Lecornu, parce que de l'autre côté, les LR et les RN pouvaient aussi demander la destitution presque tout de suite de ce gouvernement. Donc, la ligne, encore une fois, très très fine, c'est ce qui va noter ce gouvernement, en tout cas pour les premières semaines, les premiers jours. Ça risque d'être comme ça, la navigation du Lecornu numéro 2.
Je crois, Christophe, qu'il faut un petit peu séparer, j'allais dire, l'opposition de la gauche et de la droite. Je ne parle pas des extrêmes ici. Pour moi, l'opposition de droite est d'abord et avant tout une opposition politique. C'est ce qui s'était passé aussi avec les discussions et l'espèce de mélodrame avec Bruno Retailleau, injoyable, etc., lors de Lecornu numéro 1 et dans la transition du numéro 2.
Injoyable pour Bruno Le Maire.
Oui, injoyable, tout à fait, Christophe, pour Bruno Le Maire. Mais là, j'allais dire, ce qui se passe avec le groupe de droite et son chef, Bruno Retailleau, c'est avant tout pour moi une opposition politique sur la forme qui se joue avec la gauche pour que la gauche socialiste ait une chance d'exister face au LFI. C'est une opposition pour moi qui est plus sur le fond et notamment sur cette question des retraites. Mais c'est d'autant plus difficile pour Sébastien Lecornu parce qu'il doit avoir et manier plusieurs épées et plusieurs fers sur le chaud. Mais c'est pour moi une opposition un peu différente. Et cette question des retraites, encore une fois, il n'avait pas le choix. S'il ne le faisait pas, il allait de toute façon avoir une opposition trop importante et ne pas avoir le nombre. Parce que la question, ce n'est pas simplement sur ce discours de politique générale. La question, encore une fois, c'est un package, c'est un ensemble. C'est la réforme des retraites, c'est le 49-3, on y reviendra peut-être. C'est la question du déficit, c'est la question du budget avant la fin de l'année. Donc, de toute façon, il doit aller étape par étape, mais avoir les garanties que tout pourra être, j'allais dire, traité au sein de cette bourse de réformes qui se doivent être géré avant la fin de l'année.
Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement Lecornu 2, et je vais être l'avocat du diable ici, je fais aucun soutien à qui que ce soit, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est, dans un sens, si on se met un peu à l'extérieur de la politique, on sent qu'il y a un peu une idée du gouvernement de la dernière chance, mais j'allais dire plutôt le gouvernement du bon sens de la dernière chance. Lecornu, on appelle au bon sens des politiques pour éviter que tout implose. On en parlera dans la deuxième partie de cette Europa Voice, où on parlera du pourquoi, du comment on a besoin ou pas besoin d'une dissolution. Mais on sent qu'aujourd'hui, au niveau de l'exécutif, on a aussi appelé au bon sens d'une gauche traditionnelle et d'une droite traditionnelle en disant, si vous faites tout péter, on ne sait pas ce qu'il y a après et le chaos sera total. Ayons un petit peu de bon sens et voyons comment on peut négocier ça dans cette ligne du milieu.
Je vous rejoins tout à fait, Christophe, sur ce point-là, parce que le signal qui est aussi envoyé avec ce gouvernement, le Cornu 2, il est de dire que ce n'est pas une question de personne. Il est de dire, de la part d'Emmanuel Macron, c'est j'ai bien compris qu'il n'était pas question de savoir si c'était Barnier, Bayrou ou le Cornu. La question, elle est sur le projet. Donc, ne changeons pas la personne, mais alignons-nous sur les quelques réformes nécessaires pour qu'il n'y ait pas de blocage au Parlement pour l'intérêt des Français. Donc, d'une certaine façon, je vous rejoins. C'est un gouvernement de la dernière chance. Ce n'est pas une question de personne en termes de l'exécutif et en termes du gouvernement, puisqu'on a gardé Sébastien Cornu. On a d'ailleurs aussi gardé un certain nombre de ministres et on a remanié d'ici et là. La question, c'est voilà, dernière chance d'être aligné sur un projet. Ne nous soucions pas des personnes, mais soucions-nous en fait des quelques points d'achoppement pour que ça marche et pour qu'il n'y ait pas de blocage au Parlement, encore une fois, d'ici à la fin de l'année. C'est à la fois très astucieux, je pense, de la part d'Emmanuel Macron, mais aussi très dangereux, parce que sans la prochaine étape, il est hors de question de revenir à une question de personne, puisque ça a déjà été mis de côté avec avec le gouvernement Le Cornu 2. Mais donc, en fait, la prochaine étape, et on en parlera très certainement, elle va être, pour moi, si elle doit avoir lieu, d'une toute autre ampleur.
Ouais,
donc, c'est astucieux, mais c'est aussi extrêmement risqué. C'est effectivement une dernière chance qui est donnée même au projet, j'allais dire, de l'exécutif. C'est quand même assez rare, hein, si ce n'est inexistant, de nommer un Premier ministre, qu'il démissionne 14 heures après, si je ne me trompe pas, pour reformer un gouvernement avec le même Premier ministre. Donc, de toute façon, on est dans une situation un peu exceptionnelle.
Ouais, tout à fait. On sent que, au niveau d'Emmanuel Macron, on a un carquois avec un certain nombre de flèches. Et là, c'est possible que ce soit la dernière flèche à tirer avant qu'il y ait complètement autre chose. Et on en parlera dans la deuxième partie d'Europa Voice. Deux points sur lesquels je voulais revenir juste pour comprendre, la suspension de la réforme des retraites. Du côté de l'opposition, on clame aussi qu'il y a quand même un coût à ça. C'est plusieurs centaines de millions d'euros que ça va coûter au gouvernement de revenus qui ne rentreront pas dans les caisses. Il y a un moment ou un autre, l'addition s'alourdit quand même assez lourdement.
Ah, mais même Sébastien Cornu, Christophe, reconnaît qu'il y aura un coût. Il l'a dit, hein, la suspension de la réforme des retraites, elle coûtera, c'est une estimation, hein, mais entre 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027, et que de toute façon, s'il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui doit rentrer. Donc ça devrait être compensé par des économies. Donc, oui, au niveau de l'opposition, mais le Cornu lui-même, et il a eu raison, là, Christophe, d'une certaine façon, de le faire, hein, puisque c'est pas quelque chose que le gouvernement et que le groupe centriste ou macroniste voulait, mais il a raison aussi de mettre les autres députés face à leur responsabilité, de dire « Très bien, je vous ai entendu, c'est le point d'achoppement, c'est la réforme des retraites. Si je la suspends, ça aura tel cours en 2026 et tel cours en 2027. »
Ouais, tout à fait. Et l'autre point, vous l'avez mentionné, le 49-3. Alors ça, c'est aussi symbolique mais important, parce que c'est vrai que le 49-3, ça a été à la fois utilisé énormément par les gouvernements de la Ve République, certains plus que d'autres, certains moments de notre histoire plus que d'autres. Alors, il est pas retiré de la Constitution. Par contre, on a une certification que Sébastien Lecornu n'utilisera pas le 49-3, en tout cas pour faire passer son budget à la force, au forceps.
Alors, c'est une vraie option, mais encore une fois, c'est très dangereux, parce que c'est aussi une manière de dire j'ai tout essayé. Parce que le 49-3, il faut aussi bien le remettre dans son contexte, Christophe, c'est la possibilité pour les gouvernements de faire passer des lois. Hein, c'est la différence, on va pas faire un cours de droit constitutionnel, mais c'est la différence entre projet et proposition de loi. Donc, c'est pour le gouvernement l'opportunité de faire des lois et de bypasser d'une certaine façon le Parlement et les députés. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution pour un tas de raisons, parce que sur certaines lois, il faut aller plus rapidement que d'autres, parce que le gouvernement aussi, lui, a cette capacité à trancher. Donc, c'est quelque chose, en fait, la question du 49-3, c'est une question, j'allais dire, d'utilisation avec parcimonie, ce qu'on avait d'ailleurs reproché beaucoup, si je ne m'abuse, au gouvernement Valls, notamment. Mais en faisant ça, ça veut dire aussi que Sébastien Cornu fait quelque chose qui est très allié d'ailleurs avec la réforme des retraites. Il dit très bien, je vous ai écouté, je suspends la réforme des retraites, je m'engage à renoncer au 49-3. Donc, c'est encore une fois, le 49-3, c'est l'adoption d'un texte sans vote. Mais ça veut dire que si ça marche pas, eh ben on aura tout essayé. Et donc là, il faudra aller et entrevoir quelque chose de, j'allais dire, de plus compliqué que simplement reprendre le Premier ministre et changer l'équipe gouvernementale. Et puis, c'est aussi, d'une certaine manière, j'allais dire, assez stratégique, parce que renoncer au 49-3, c'est mettre les parlementaires face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que le gouvernement n'est plus un élément de passage en force ou de blocage pour certaines lois, puisque tout maintenant tombe ou reste entre les mains du Parlement avec des débats et des votes. Donc, c'est effectivement une rupture avec ce qui s'est passé avant, parce que c'est un partage qui est beaucoup plus équitable du pouvoir entre le Parlement. On tend vers beaucoup plus de parlementarisme, mais c'est aussi très dangereux, parce que tendre vers plus de parlementarisme quand il n'y a pas de groupe majoritaire à l'Assemblée, ça peut entraîner des situations de blocage irrémédiable. Mais encore une fois, il faut prendre ça dans le contexte de, pour être sûr de pouvoir faire passer les projets importants, il fallait de toute façon que Macron et le cornu, que le président et le gouvernement lâchent du lest sur certains points. Et le 49-3, c'est la réforme des retraites, c'est sur le fond. Le 49-3, il y a quelque chose de très symbolique, de presque faire descendre le pouvoir de la monarchie d'une certaine façon et redonner au Parlement ses lettres de noblesse. Donc, c'est astucieux, mais de la même manière que pour la réforme des retraites, c'est aussi à double tranchant si jamais ça ne va pas dans la direction que le cornu veut emprunter.
Nous, on est tout d'amour. d'amour. Il n'en est pas question.
Pour moi.
Et ça va pas.
Casse-toi.
Crache ton venin.
Pour toi.
Mais c'est pas la fin.
Pour moi.
Mais tu me tends la main.
Vous avez reconnu, bien entendu, Mzaza, Battle of the Birds, enregistré ici par votre serviteur, Mzaza, Battle of the Birds, donc dans les studios de SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons sur les ondes de Radio SBS Stella Sulak, qui est la responsable du Perth French Theatre. Bonjour à vous et bienvenue, Stella.
Et bonjour, Jean-Noël.
Et c'est un beau retour prochainement sur les planches du théâtre pour le Perth French Theatre. En novembre, vous présentez un nouveau spectacle. Racontez-nous.
Alors, c'est un spectacle qui s'appelle Kéderec et qui se passe en Bretagne et qui est écrit par un acteur du groupe, en fait, qui s'appelle Luc Félix, qui avait écrit également Camille Claudel en début d'année. Et voilà, pour commencer.
Et donc, Luc est basé en Western Australia.
Alors oui, il est basé en Western Australia, il est ici depuis une vingtaine d'années, et c'est un passionné d'écriture, on trouve qu'il a un talent fou, et cette année a été un petit peu difficile pour moi. Bon voilà, il y a eu pas mal de petits problèmes de santé et autres, et du coup, j'avais prévu de créer plus un événement autour des 10 ans, parce que c'est les 10 ans cette année de Perth French Theatre. On avait envie de créer quelque chose d'un petit peu différent, et donc Luc m'a proposé une idée de pièce et qui m'a énormément plu et qui parlait en fait avec le moment que j'étais en train de vivre, et du coup on s'est lancé là-dedans et c'est une aventure super intéressante comme toujours.
Et donc ce sera un voyage en Bretagne.
Voilà, c'est un voyage en Bretagne. C'est une famille qui vit sur une presqu'île et qui va se retrouver après une tempête coupée du continent et qui va devenir une île et qui va réveiller en fait. C'est un peu une pièce sur le pouvoir de l'imagination, sur l'héritage, sur tout ce qu'on trimballe de nos familles, sur le courage, sur c'est super intéressant, c'est assez drôle, fantaisiste, léger et profond, tout comme j'aime.
Et donc, vous avez beaucoup d'interprètes, j'imagine, sur scène pour ce
oui.
Nouveau spectacle.
Oui, ils sont une quinzaine encore. Et là, la particularité de ce spectacle, c'est que Pierre Bessière, donc, qui était un acteur des troupes d'il y a quelques années, 5-6 ans, était rentré en France, il a fait une école de théâtre, et puis là, il y revient. Et il nous a rejoints et c'est un vrai, vrai bonheur de l'avoir parmi nous à nouveau.
Et donc, d'après ce que je comprends, Kéderec, c'est un endroit fascinant où l'on parle encore le breton, c'est ça?
C'est ça. Donc, c'est surtout que... Alors, moi, je ne connais pas bien la Bretagne. Je suis française, hein, mais pas très, très bien la Bretagne. Et du coup, ça attise énormément ma curiosité parce que je me rends compte que je découvre de mon propre pays énormément de... Ben encore plein de choses, dont le fait que les Bretons vraiment défendent énormément encore leur langue, qu'il y a des particularités vraiment précises. Et les artichauts, par exemple, ben moi, je ne savais pas que la Bretagne était connue pour avoir des artichauts. bon, voilà, des choses comme ça. Une musique vraiment très particulière avec énormément de jeunes qui reprennent les musiques traditionnelles et qui les... rarise, je ne sais pas, un truc dans ce genre. Et c'est chouette, c'est vraiment très, 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 très enrichissant.
Et voilà. Parlez-nous du Camelot Theatre, c'est à Mossman Park.
C'est un petit théâtre que vraiment que j'adore, qui est très très, qui est intime et en même temps très très accueillant. On a joué Camille Claudel là-bas, on a vraiment adoré parce qu'on est bien reçu, parce que le public a de la place, on peut boire, on peut manger, il y a un cinéma extérieur, c'est vraiment un très très beau lieu ici. Et je suis ravie qu'on puisse rejouer là-bas.
Et donc, comme vous disiez au début, ce sont les 10 ans du PUF French Theatre. J'imagine qu'il y a d'autres projets en chantier pour 2026 également.
Alors, pas tout de suite.
Un petit repos,
j'ai été
d'abord.
J'ai vraiment été ralentie, donc je suis en train de réfléchir. Une suite, pas une suite. C'est pas évident. Mais je pense que j'arriverai pas à lâcher comme ça. Tout est encore en chantier, on va dire.
Alors, quel est le message que vous auriez pour encourager les gens pour venir voir ce spectacle en novembre?
On va dire que y a peu d'occasions de découvrir la Bretagne, de voir des spectacles en français sous-titrés en anglais, de soutenir des gens absolument passionnés parce que toute la troupe, ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, ils ont envie de donner. L'histoire est vraiment chouette, elle est gaie et elle, comment on va dire, moi elle me donne du courage parce que bon, on a tous des tempêtes, hein, on a tous des tempêtes dans nos vies et qu'il y a toujours moyen de ressortir plus grand et plus fort. Donc c'est un joli message, mais en même temps avec beaucoup d'humour. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir la voir.
Donc rendez-vous du 5 au 8 novembre prochain et toutes les informations sur le site de perffrenchtheatre.com.
Exactement.
Merci à vous Stella et bonne continuation.
Merci à vous Jean-Noël, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je vous parle d'un temps. La Bohème. Je vous parle d'un temps.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème entre galère et poème. À chacun sa bohème.
À chacun sa bohème de grand corps malade. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec le nouveau directeur de l'Alliance française de Perth.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir le nouveau directeur de l'Alliance française de PUF, Alexandre Allais. Bonjour et bienvenue sur SBS en français.
Bonjour Jean-Noël et merci de m'accueillir sur votre antenne.
Et vous dirigez ce nouveau poste en Western Australia depuis quelques semaines. Peut-être pour débuter, comment ça se passe et quelles sont un petit peu vos impressions de l'Australie occidentale?
Eh bien, écoutez, je suis arrivé effectivement le 31 août à Perth et j'ai commencé dès le 1er septembre. J'ai trouvé une équipe qui était très très motivée et qui avait très envie de développer l'Alliance française. Et donc, je suis ravi d'être dans cet environnement-là avec des étudiants aussi, une communauté ici qui est très fidèle et beaucoup de francophilie aussi. C'est ce qui m'a surpris. À Perth, depuis que je suis ici, je vois beaucoup d'événements culturels qui tournent autour du français. Donc, un public qui sera, j'en suis sûr, ravi des prochains projets de l'Alliance française.
Peut-on parler un petit peu de votre parcours professionnel, de peut-être votre trajet au sein des réseaux des Alliances françaises?
Bien sûr. Donc, moi, j'ai commencé à l'Alliance française de Paris, où j'ai commencé en tant qu'enseignant de français langue étrangère, puis coordinateur pédagogique pendant plusieurs années, pour notamment les écoles type HEC ou le Lauder Institute de Wharton, qui venait tous les étés à Paris. Donc voilà, je gérais ce type de cours-là. Puis je suis parti à Dublin pendant 3 ans, où j'ai été directeur académique. Donc là, je gérais une équipe de 35 profs et on a eu des résultats assez exceptionnels. On est passé de la 3e à la 2e place en termes d'alliance en Europe. Donc voilà, la première alliance européenne hors Paris, bien sûr. Donc c'était très satisfaisant et me voilà donc en Australie, où j'espère mettre à profit toute mon expérience pour développer l'alliance de Perth.
Et qu'est-ce qui vous attire en Australie? Comment fait-on pour choisir ce pays, le pays que l'on préfère pour y travailler?
Alors, dans le processus de recrutement du ministère des Affaires étrangères, en fait, on fait une liste de vœux, qui nous permettront ensuite d'être contactés pour de futurs entretiens. Donc l'idée que j'avais, moi, c'était de rester sur mon expérience des publics anglophones, parce que j'ai une licence d'anglais, et je suis parti en Angleterre pour être assistant de langue là-bas pendant 1 an, quand j'étais plus jeune. Et Dublin ensuite, donc j'avais toute cette expérience-là qui me semblait être pertinente de continuer à développer dans un univers anglophone. Et au demeurant, l'Australie m'attirait aussi beaucoup pour sa culture, ses magnifiques paysages, son temps merveilleux, parce que je vous avoue qu'après 3 ans à Dublin, j'avais besoin d'un peu de soleil. Donc c'était aussi un moment important pour moi d'avoir cette très belle opportunité professionnelle et en même temps d'évoluer dans un environnement très différent et très qui me permettra d'être dans la continuité tout en ayant un univers complètement différent.
Et peut-on peut-être déjà parler de vos projets que vous aimeriez mettre en place en chantier pour l'Alliance française de Perth, ou c'est trop tôt?
Alors, on est là, ça fait six petites semaines que je suis là. J'ai déjà beaucoup, beaucoup d'idées.
Oui.
Je pourrais pas tout vous dévoiler parce qu'il y a des choses qui sont encore
en place,
en discussion, et voilà, qu'il faut mettre en place. Mais il y aura beaucoup de nouveautés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de nouveautés à la rentrée de février, du term 1 l'année prochaine, notamment sur l'offre de cours. Donc, je compte avec mon équipe développer et restructurer et rendre plus attrayante aussi, peut-être pour un autre public. Attirer un public autre, plus jeune, pourquoi pas, plus dynamique, et bien sûr valoriser nos étudiants actuels. Donc il y aura de nouveaux formats de cours, peut-être plus flexibles, plus courts dans la durée également, avec des thèmes qui seront également nouveaux. Donc voilà, il y aura beaucoup de nouveautés. Je peux pas trop en dévoiler maintenant pour garder la surprise et en même temps pour terminer de valider tout ça.
Oui, ouais.
Mais il y a énormément de chantiers effectivement pour l'année prochaine qui seront vraiment très excitants.
On va profiter de l'occasion pour parler des événements à venir en ce mois d'octobre et de novembre. Peut-être à commencer par cette visite guidée en français du Art Gallery de Western Australia.
Absolument. Donc c'est un événement gratuit qui a lieu soit le lundi 13 octobre ou le vendredi 31 octobre. Donc vous aurez la possibilité de visiter en français l'Art Gallery, et ce sera un événement qui est déjà très prisé. Il faut faire vite parce que je crois que les places sont très limitées maintenant.
Et puis les événements réguliers existent déjà et ça va continuer, comme par exemple le book club, le ciné club, les soirées de conversation.
Absolument. Donc tous ces rendez-vous incontournables de l'Alliance vont continuer, vont avoir lieu bien sûr ce mois-ci, le mois prochain, l'année prochaine également, vont se développer également. On a des projets pour avoir de nouveaux rendez-vous mensuels comme cela, et qui seront, j'en suis sûr, très intéressants pour tous nos clients, nos étudiants. On est en cours de révolution à l'Alliance de Perth, une révolution douce, mais avec beaucoup de choses qui seront attrayantes, en plus de nos incontournables, tels que le book club ou le café conversation, bien sûr.
Et puis, il y a cette exposition qui démarre le 17 octobre. C'est un artiste rayonné. Je vous laisse dévoiler son nom et son parcours.
Exactement. Donc, on aura le plaisir d'accueillir pour le vernissage de son exposition Irène. Donc, c'est un artiste français, réunionnais, qui nous proposera une exposition autour du bestiaire de Western Australia, Donc à partir de cartes maritimes qu'il est allé chiner dans différentes brocantes ou à partir de ou chez des marins, etc. Il a des immenses cartes sur lesquelles il a peint de façon très colorée les animaux récurrents que l'on trouve dans l'Australie occidentale. Donc c'est très beau, c'est innovant et ça a un œil frais et différent sur le lien entre la nature et Western Australia avec une touche à la française. Donc ça c'est vraiment c'est très 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 beau. Et effectivement, le vernissage sera le 17 octobre à 18h et c'est gratuit.
Est-ce qu'il sera sur place pour l'Opening Night ?
Il sera là sur place, bien entendu. Oui, oui.
Bravo. Et puis, je crois que vous avez aussi un cooking class vers la fin du mois.
Oui, alors on a eu le plaisir d'accueillir déjà pour une cooking class Loupistou. Ce sont des cuisiniers français qui ont beaucoup de talent et qui mélangent la cuisine française avec la cuisine australienne, donc c'est parfait pour les projets, l'idée de l'Alliance française qui doit être un carrefour des cultures, et cette cooking class sera exactement dans ce thème-là, et elle a eu beaucoup de succès cette première cooking class, donc même chose, les places partent assez vite pour les prochaines, et on est très heureux d'accueillir Loupistou.
Et puis on va parler peut-être de deux save the dates pour le mois de novembre. Vous avez la Quiz Night, c'est un rendez-vous annuel d'après ce que je comprends.
Exactement, hein. Donc la Quiz Night c'est un incontournable de l'année aussi pour l'Alliance française, donc des séries de questions de culture générale pour avoir des lots, des lots très très intéressants et très sympathiques, donc c'est une soirée conviviale où on passe un très beau moment tout en testant ses qualités de culture générale en français et en anglais. Donc c'est vraiment un événement qu'il ne faut pas rater.
Et ensuite la soirée Beaujolais du 20 novembre.
Bien sûr, donc qui sera à la Lune, donc cette soirée Beaujolais traditionnelle où on passera un excellent moment à déguster les nouveaux Beaujolais de l'année. Donc c'est le 20 novembre à 17h30. Voilà, donc n'hésitez pas à booker cet événement qui sera excellent également.
Alors autre événement que j'ai oublié de mentionner, c'est le Festival du film français et ça va s'approcher assez rapidement. C'est l'Alliance française French Film Festival de 2026 et vous êtes, j'imagine, déjà bien impliqué pour l'édition de l'année prochaine.
Tout à fait. Alors c'est un événement qui est très très important. On m'en a déjà beaucoup parlé, et mon prédécesseur et tous les collègues ici. On a déjà beaucoup de réunions à ce sujet. Donc là, on est en cours de visionnage des films. Hein. On essaie de sélection et de lier tout cela à des événements particuliers. Donc on a beaucoup de réunions, beaucoup de travail, effectivement, de préparation pour du festival. Qui aura lieu pendant le mois d'avril, hein. Donc on est déjà en plein préparatif. Je ne peux rien vous dire malheureusement pour l'instant parce que
même pas
encore une fois les choses sont tout à fait confidentielles et on travaille beaucoup dessus, mais très bientôt on communiquera sur ça.
Même pas les noms des possibilités des invités.
Non, malheureusement, c'est encore au stade de la préparation, donc ouais. Je pourrais pas m'avancer, ce serait un petit peu trop tôt encore.
Absolument. Quel est le message que vous auriez pour les francophiles et les francophones de Western Australia pour peut-être venir visiter les locaux de l'Alliance française à Nedlands ?
Eh bien, que l'Alliance française est la maison de tous les Français, aussi des Australiens, mais bien sûr des Français, et que nous sommes ravis de les accueillir ici. Alors, nous avons en plus la chance d'avoir le consulat qui fait partie des murs ici à l'Alliance française de Perth. Donc, nous voyons toute notre communauté passer régulièrement et s'intéresser à ce que nous faisons. Donc, je parlais tout à l'heure des nouveautés pour nos cours pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, notre dernier terme commencera la semaine du 13 octobre, hein, le terme 4 cette année.
Ouais.
N'oubliez pas de vous inscrire. Mais également, donc, la communauté australienne, mais la communauté francophone également. Et j'ai beaucoup de projets également pour cette communauté que j'aimerais voir plus nombreuses encore à l'Alliance. Avec l'opportunité de se mélanger, de rencontrer aussi les Australiens. Donc voilà, il y aura également à ce sujet-là beaucoup de nouveaux projets. On a eu aussi le plaisir récemment de rencontrer la nouvelle star des Wildcats de Perth, l'équipe de basket.
Ouais.
qui est Noah Kwaku-Hogg qui a 18 ans et qui est une future star du basket français. Et on a été ravis de le rencontrer et de l'inclure aussi dans cette communauté française soutenue et portée par l'Alliance française de Perth.
Alexandre Allais, merci à vous, bonne continuation et à très bientôt sur SBS en français.
Un grand merci Jean-Noël, à très bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent en prudence?
Même après, je t'aimerai, une de mes chansons préférées de Oshi en ce samedi sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.